Eh bien, merci de venir assister à cette conférence. Il nous manque encore un intervenant, mais qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. On va s'intéresser à Jules Verne et à la question de savoir si nous sommes toujours les enfants de Jules Verne. En 98, il y a une anthologie assez célèbre de Serge Lehmann qui s'appelle Escale sur l'horizon, où il partait du postulat qu'effectivement la science-fiction en France, tout du moins, était héritière de Jules Verne. On va se poser la question, car la question se pose toujours d'abord en termes d'influence, puisque le monde anglo-saxon a quand même eu une influence assez forte sur l'imaginaire en France. On va aussi discuter avec Andreas Eschbach, savoir si en Allemagne, Jules Verne a eu une influence, ou s'il y a d'autres acteurs qui sont plus ou moins importants. On parlait de Perry Rodan il y a deux jours ensemble. Et puis, si Didier Graffet n'est pas loin, on parlera illustration et on verra quelles influences il a beaucoup travaillé sur Verne. Je vais vous présenter rapidement mes intervenants. Tout d'abord, Jean-Yves Pommier qui est avec nous, qui dirige la revue Planète Jules Verne. Si vous pouvez peut-être la montrer. Voilà, qui a beaucoup travaillé donc sur Jules Verne. Et on lui demandera un petit peu comment lui, il voit les choses de sa posture de vernien. On peut dire ça, de spécialiste, oui, de vernien. On va vous qualifier de vernien. Andreas Eschbach, donc le plus français des auteurs allemands, en tout du moins en science-fiction. On va pouvoir citer évidemment des milliards de tapis de cheveux. Son dernier titre s'appelle Maître de la matière, mais on conseillera aussi Jésus vidéo, Quest et tout un tas d'autres romans. Donc lui, ce sera la vision un petit peu allemande de notre problématique autour de Jules Verne. Et puis à mes côtés, Simon Bréant, qui est maître de conférence en littérature française et qui a signé la science-fiction en France 1950-1980. C'était le champ d'étude. Donc lui, il va pouvoir nous apporter son point de vue d'universitaire un petit peu sur cette question. Monsieur Pommier, simplement, peut-être une première question à vous, spécialiste. Est-ce que, à la question posée, sommes-nous les enfants de Jules Verne, est-ce que vous voyez encore la trace de Jules Verne dans ce qui est écrit aujourd'hui ou dans ce que nous sommes en tant qu'amateurs de science-fiction ?
Oui, alors j'élargirai peut-être un peu le propos parce que Jules Verne et la science-fiction, c'est vrai qu'il y a un lien très direct et très étroit et ce sont certainement les Américains d'ailleurs qui ont institué Jules Verne, père de la science-fiction. Mais en fait, Jules Verne est beaucoup plus que ça, en fait, que la science-fiction. Et quand on parle des enfants de Jules Verne, c'est un univers encore beaucoup plus vaste. Donc c'est peut-être un peu ça. Je pense que nos amis parleront plus de science-fiction que moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que Jules Verne a de nombreux descendants, de nombreux enfants et de nombreuses personnes qui, aussi bien dans le domaine littéraire que dans le domaine scientifique ou plutôt encore de l'exploration, se sont recommandés de Jules Verne. Prenons simplement un exemple sur la conquête des pôles. Quand Jules Verne écrit ses romans, les pôles sont encore inconnus, du moins ils n'ont pas encore été atteints. Par contre, il y a de nombreuses expéditions qui le cherchent. Et à la suite de Jules Verne, tous les explorateurs qui continueront cette quête se recommanderont de lui. Et quand on atteindra de façon ou d'une autre les pôles, on dira « Ah, enfin j'ai réussi ce que Jules Verne avait dit ». Par exemple, l'amiral Byrd, quand il survolera le pôle sud en avion, il dira « c'est Jules Verne qui m'emmène ». Donc c'est vraiment un inspirateur auquel on se réfère. Et il y a finalement un curieux renversement. Autant Jules Verne évoque dans ses romans tous les explorateurs qui ont précédé ses héros, qui eux sont fictifs, autant les explorateurs qui suivront, qui eux sont bien réels, évoqueront l'œuvre imaginaire de Jules Verne. Donc il y a un retournement qui est assez fort. Donc là, je parle des pôles, on peut parler du sous-marin et du Nautilus. Jules Verne n'a pas inventé le sous-marin, mais il l'a mis en scène, il l'a mis dans la vie et il lui a fait faire un parcours qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et ensuite, quand on arrivera avec des niveaux d'engins qui permettront de parcourir le monde et le fond des océans de manière peut-être encore plus complète que ne le faisait Jules Verne, eh bien on redonnera le nom de Nautilus. En France, en 1930, il y a un sous-marin qui s'appelle Nautilus. Le premier sous-marin nucléaire qui est passé sous le pôle, en l'occurrence, il est passé sous le pôle Nord, parce que le pôle Sud, c'est un continent, c'était le Nautilus. Donc, vous voyez, on retrouve toujours un petit peu cela dans l'histoire. Et donc, les enfants de Jules Verne, aujourd'hui, dès qu'il y a une compétition d'exploration ou même sportive, le tour du monde en bateau à la voile, le trophée Jules Verne existe. Bon, alors les 80 jours ont été battus dès la première édition. Par contre, le trophée le Vendée Globe, il a fallu attendre l'année dernière pour qu'on passe enfin en dessous des 80 jours. Mais c'était toujours la référence mythique. Donc les enfants de Jules Verne, ils sont encore très nombreux aujourd'hui dans beaucoup de domaines.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est une influence qui croît ou qui décroît? Est-ce qu'on est en train de se détacher progressivement de Jules Verne ou est-ce qu'il est encore très présent?
Absolument pas. Il est encore très présent, Jules Verne, aujourd'hui. Donc dès qu'il y a un exploit quelconque, on peut citer par dans le domaine maritime, je trouve une filiation. Le commandant Charcot, bien connu, était un admirateur de Jules Verne. À bord du Pourquoi pas, il avait toute une bibliothèque avec beaucoup de livres de Jules Verne. Et quand il fera ses exploits, il se référera à Jules Verne. Et de même, il formera Paul-Émile Victor, qui lui aussi aura une grande dévotion pour Jules Verne. Et Paul-Émile Victor, à son tour, formera Jean Mallory. Donc vous voyez, il y a une filiation de grands explorateurs polaires qui, chacun leur tour, auront cette référence à Jules Verne. Et la filiation ne s'éteint pas.
Andreas Eschbach, peut-être un petit mot sur Jules Verne en Allemagne. Est-ce que c'est un auteur qui compte? Et est-ce que M. Pommier nous parlait effectivement de son influence au-delà de la littérature? Est-ce que c'est quelque chose qui se sent aussi de l'autre côté de la frontière?
Ah oui, Jules Verne, ça existe toujours. Il y a quelques ans qu'on a retrouvé le manuscrit original du Chasse aux météores. Et c'était traduit et republié dans la forme correcte en Allemagne. On m'a demandé d'écrire une introduction pour ce livre. Et c'était paru dans une édition très luxurieuse et ça s'est vendu pas mal.
Oui, sur l'Allemagne, parmi donc les Verniens de mes amis, il y en a un qui s'appelle Volker Dess, et faisant ensemble partie de la Société Jules Verne. Et il est rédacteur en chef du bulletin de la Société Jules Verne. Donc nous travaillons ensemble. C'est un des plus grands spécialistes, un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Jules Verne. Il est allemand.
Petite question donc à Simon. Alors là, pour le coup, on va s'intéresser à la science-fiction française et en France. Toi qui as étudié la période 50-80, est-ce que l'influence de Jules Verne est prédominante ou est-ce qu'elle est derrière celle des anglo-saxons?
Alors, je vais me permettre de reposer un peu la question, c'est-à-dire que, pour tout dire, l'expression, la métaphore enfant de Jules Verne pose un problème. Un problème à deux niveaux qui est apparent dans ce que M. Pommier a dit tout de suite, c'est-à-dire que finalement, si on parle d'enfant de Jules Verne, on se positionne dans l'idée d'un père de la science-fiction, une sorte de patriarche un peu lointain qui, peu à peu, dans la dynastie, s'est établi peu à peu. Ici, ça pose un problème qui est que Jules Verne continue, en temps réel, en quelque sorte, d'influencer des choses. C'est-à-dire que quand on parle de ce que des références qui sont utilisées de nos jours à des œuvres de Jules Verne, on ne parle pas de ce que des intermédiaires auraient fait. On parle toujours de Jules Verne. C'est-à-dire que l'influence de Jules Verne est toujours présente. Donc, la question de l'héritage est différente. C'est-à-dire que là, ce qu'on a, c'est l'influence directe de Jules Verne, qui est toujours présente ici. Et ça peut se faire de façon complètement distincte d'une question qui serait une question à ce moment-là d'histoire littéraire, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été transmis? Quel est l'héritage qui a été transmis? Et alors, avant de parler des années 50, mais je vais très vite, avant de parler des années 50, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a eu de très nombreuses étapes dans la manière dont l'histoire littéraire de l'anticipation de la science-fiction s'est construite. Et que plutôt que l'image du patriarche père de la science-fiction, je jouerais volontiers plus avec une métaphore qui ferait de Jules Verne l'ève mitochondriale de la science-fiction. C'est-à-dire plutôt une sorte d'ancêtre général dont on retrouve des traces dans à peu près toutes les manifestations contemporaines, sans forcément qu'il y ait, à proprement parler, un lien de filiation, un lien de filiation conscient. Oui. Bon, après, cette métaphore ne marcherait pas beaucoup plus, mais elle est peut-être plus significative dans un certain nombre de choses, mis à part le changement de genre que ça permet d'occasionner. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'anticipation, l'imagination scientifique se développe en même temps que Jules Verne et après Jules Verne, avec des gens comme Robida, par exemple, eh bien, on a clairement un imaginaire vernien, des inventions, des merveilles techniques qui, éventuellement, vont foisonner ou, au contraire, disparaître une fois le récit terminé. Bon, là, on est dans l'imaginaire technique. En revanche, lorsque les œuvres de Wells arrivent au début du XXe siècle en France, elles marquent une différence fondamentale. C'est-à-dire que Wells introduit une thématique, un type de thématique que Jules Verne a très très peu traité, qui est la question de l'altérité, la question de l'autre, le rapport à l'autre. Je ne vais pas développer ici, mais c'est quelque chose qui a beaucoup influencé les auteurs français de cette époque. Et là, la question se pose de, finalement, quel est le rapport entre Verne et Wells ? Wells, même s'il est éminemment original dans énormément d'aspects, il est lui-même indirectement, il a une dette envers Jules Verne, c'est-à-dire qu'il reféconde à partir de sa position l'imagination scientifique française, mais lui-même doit une partie de son imagination à ce que Jules Verne a pu faire. Et lorsque, ensuite, en 1950, la science-fiction, la science fiction, arrive et s'établit avec une impression pendant quelques temps qu'il n'y a finalement que c'est qu'on fait une table rase et que la science-fiction à l'américaine est entièrement nouvelle, eh bien, ce qui n'est pas perçu immédiatement et qui pourtant est important, c'est que à l'origine même de la science-fiction gernsbachienne, il y a des textes français et notamment Jules Verne, que Jules Verne est une référence de la science-fiction initiale. C'est-à-dire qu'il y a eu à nouveau fécondation et que lorsque on a ce retour de la science-fiction à l'américaine en France, on a en partie une tradition vernienne qui revient transformée, comme disait Jacques Sternberg, qui revient transformée, dépucelée, enfin bon, tout ce qu'on veut. Je me souviens plus de la citation exacte, malheureusement, elle est assez savoureuse, mais avec cette idée que ce qui s'est développé en Europe a été transformé et est devenu quelque chose de très différent. Il y a une réelle différence qualitative. Et donc, quand ça revient en France, c'est un nouveau visage de Verne qui n'a pas été du tout celui qui s'est développé en terre française. Et donc, la gestion des merveilles scientifiques, la question de l'aventure, la question de la spéculation scientifique a été à nouveau réélaborée. Et alors, pour terminer là-dessus, ce qui est frappant, et je rejoins de ce point de vue-là M. Pommier, c'est que, en parallèle de cette question de la science-fiction américaine adaptée, réélaborée par des auteurs français, eh bien, on a une présence constante de Verne, voire en augmentation, parce qu'il est quand même, il me semble, de plus en plus lu à cette époque, qui fait qu'il est en quelque sorte la figure qui est mise en permanence en regard de ce que, éventuellement, des Américains ont pu faire à partir du même genre d'idée. Donc, je dirais que plutôt qu'une paternité, il y a une présence et de multiples points d'entrée dans l'imaginaire et dans la littérature française.
Monsieur Pommier, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit ?
Oui, non, je partage tout à fait cette opinion. C'est vrai que l'importance de Jules Verne est toujours très, très grande aujourd'hui. Ce que disait le commandant Charcot à une époque, il a fait une conférence en 1928 à l'occasion du centenaire de naissance de Jules Verne. En fait, il l'a fait au début de 1929 à la Société de Géographie à Paris. Et il disait, on dirait du Jules Verne. Et aujourd'hui, encore de nombreux articles de presse, de communication, un événement, quelque chose d'extraordinaire, ça, c'est du Jules Verne. Donc, ça dépasse, là, je dépasse le champ littéraire complètement. Et on pourrait même prendre d'autres exemples dans l'espace géographique, puisque Jules Verne était littéraire et géographe à sa façon. Il décrivait le monde et il anticipait éventuellement des découvertes dans des pays du monde encore inconnus. Eh bien, aujourd'hui, on donne le nom de Jules Verne à des rues, à des écoles, à des universités, à des monts, à des lacs. Il y a même 4 villes aux États-Unis qui portent le nom de Jules Verne. Il y a 2 astéroïdes. Il y a sur la Lune, il y a aussi Jules Verne est présent. Bref, il est partout. Et y compris dans l'aménagement du territoire, l'aménagement de l'espace, Jules Verne a imaginé des cités idéales, notamment les 500 millions de la Bégum, il y a une idéale et une qui l'est moins, mais Franceville, la cité idéale. Jules Verne dira à un de ses correspondants en 1897, je viens de découvrir qu'il y avait un Franceville du même nom, des mêmes caractéristiques, avec les mêmes objectifs que mon Franceville, qui est en train de se construire en région parisienne. C'était une cité-jardin à Montfermeil. Alors, ça n'avait pas l'ampleur d'une ville, ça existe encore aujourd'hui, ça n'a pas les mêmes caractéristiques, mais ça existe. Et puis, encore plus fort. Un an après l'écriture de ce roman, Les 500 millions de la Bégum, une ville nouvelle, une vraie, est créée. Ça n'est pas en France, ça n'est pas aux États-Unis, c'est en Argentine, curieusement, que se crée une ville nouvelle. Buenos Aires devenait capitale du pays, il y avait une transformation politique en Argentine, et la région de La Plata où était Buenos Aires avait besoin de se trouver une capitale. Et on crée une ville nouvelle, totalement nouvelle à La Plata, qui en 6 ans avait 80 000 habitants, qui aujourd'hui en a 500 000, et qui en 1999 a demandé à l'UNESCO une reconnaissance au titre de patrimoine mondial de l'humanité en tant que cité de Jules Verne. Oui, c'est bon, je fais très court. Bien sûr, Jules Verne, cette ville n'est pas tout à fait identique à Franceville, il y a plein de différences, mais il y a quand même une filiation qui était demandée, souhaitée. Ils sont venus la présenter à une exposition universelle en disant, voilà, c'est la ville de Jules Verne, on vient en France à ce moment-là pour le dire. Et encore, à la fin du siècle dernier, une demande de reconnaissance. Donc, on retrouve aussi là, dans ce domaine qui n'est plus littéraire, mais qui quand même, ce sont d'autres enfants de Jules Verne, ce sont des lieux, ce sont des villes, ce sont des lieux qui sont dénommés Jules Verne, et ça participe un peu de ce même univers où ça reste une référence à laquelle on a envie de se plaire.
La question de Simon était intéressante, c'est est-ce que c'est une filiation directe finalement, ou est-ce que c'est une filiation indirecte par de jeux de rebonds en littérature via Wells et puis la science-fiction américaine? Est-ce que c'est aussi le cas? Est-ce qu'on peut dire que l'influence est si directe qu'on peut coller le mot enfant? Non, est-ce que nous sommes des cousins, des petits cousins éloignés?
C'est les deux à la fois. Quand on parle de ville, c'est parce qu'il y a toute une dynamique de ville hygiéniste au XIXe siècle, que Jules Verne s'en est inspiré pour décrire sa ville de Franceville, et que après des architectes de la même mouvance ont créé des villes réelles, et que ceux qui ont repris ces villes ont eu envie de faire la référence à Jules Verne parce que ça donnait une aura supplémentaire. Donc ouais, c'est direct et indirect à la fois.
Une petite... Simon ?
Je voulais juste préciser une chose. Je ne voudrais pas donner l'impression non plus que je considère qu'il y ait une main invisible de Jules Verne qui traverse la science-fiction française et qui lui donne sa forme. Non, pas du tout. De ce point de vue-là, ce qui est intéressant dans cette idée d'enfant de Jules Verne, c'est qu'il faut quand même reconnaître une chose, c'est que ça n'est pas par Jules Verne que la science-fiction française, depuis 1950, a acquis ses lettres de noblesse. C'est-à-dire que c'est en faisant réellement autre chose, quelque chose de nouveau, de différent, influencé en partie par la science-fiction américaine, mais pas uniquement. Et il serait étrange de revendiquer comme un titre de gloire l'idée d'être enfant de Jules Verne. Il me semble que les auteurs français ont plus intérêt, parce qu'au départ c'est une tentative de légitimation, de retour à l'idée d'une science-fiction française, mais il me semble que les auteurs français ont tout intérêt, d'ailleurs ils ne se réclament pas si souvent que ça de Jules Verne, de faire valoir leur mérite respectif. Et nous sommes très très loin dans la science-fiction qui est écrite de nos jours du type de récit qui était la marque de fabrique de Jules Verne. D'un point de vue histoire littéraire, on est dans quelque chose d'extrêmement différent. Donc, à tel point que, au-delà d'une référence un peu lointaine, bon, c'est un héritage, mais comme l'ève mitochondriale, bon, il est enfoui, il s'éloigne de plus en plus.
Oui, c'est ce que je... C'était pas anticipé ma prochaine question. Non, mais c'est très bien. Sur, effectivement, qu'est-ce qui reste en littérature, mais peut-être c'est aussi une question pour Jean-Yves Pommier, et puis on s'intéressera au cas de l'Allemagne. Sur cet aspect sciences et techniques, sur cet aspect voyage, est-ce qu'il y a des fils directs, ou comme tu viens de le dire, les fils sont complètement indirects, et c'est un héritage un petit peu enfoui dans ce qui se produit entre 50 et 80 et aujourd'hui?
Disons que, pour être clair là-dessus, c'est que personne ne lit Jules Verne en se disant, enfin aucun auteur de science-fiction français ne lit Jules Verne en se disant, voilà mon modèle, voilà, à partir de ça je vais écrire un récit. C'est pas une influence vivante à ce niveau-là. C'est quelque chose qui travaille l'imaginaire en profondeur, mais quand vraiment on peut relier à Jules Verne, c'est à ce moment-là, c'est un hommage explicite, comme par exemple le roman à quatre mains, Un an dans les airs, là, qui est sorti cette année, et qui présente effectivement de nombreuses choses d'un seul coup, dont effectivement je vois que Nicolas Fructus par exemple a illustré. Ça c'est un hommage direct, c'est faire du Jules Verne, et c'est un hommage. Mais au-delà de ça, le type de récit a changé. Il y a eu une évolution, une histoire littéraire très importante. Et on est beaucoup plus proche des techniques narratives développées pendant les années 40 et 50 aux États-Unis. Quand on lit un livre de science-fiction français, c'est là que se sont faits l'essentiel, enfin, les premiers outils de narration. La narration, disons, à la Jules Verne, identifiable comme telle, elle n'est plus à la source vivante de quelque chose qui s'écrirait de nos jours en France, me semble-t-il.
Juste pour vous dire que j'ai fait monter sur scène Nicolas Fructus, qui est illustrateur, qui vient notamment de faire un livre qui s'appelle Un an dans les airs, donc directement inspiré de Jules Verne. Et je me le garde en réserve, je voulais le bloquer, Nicolas, pour qu'il nous parle d'une partie un peu illustration, en fait. Hein, globalement, est-ce qu'il y a une influence et peut-être aussi dans le steampunk aujourd'hui ou des choses comme ça. Voilà, il y a une filiation. Je voudrais revenir à ça, Monsieur Pommier, parce que le point de vue de Simon, mais qui est sans doute aussi un petit peu le mien, on regarde ça de la place de la science-fiction française. Vous qui êtes plutôt de la place de Jules Verne, comment est-ce que vous voyez cette influence littéraire ?
Oui, je suis moins bien placé que vous pour parler de science-fiction, parce que ça n'est pas mon domaine, mais... je crois qu'effectivement, il y a une distance qui est importante entre la science-fiction et Jules Verne. Il n'était pas, comme le disent les Américains, le véritable père de la science-fiction, mais il a un style et un univers et une œuvre qui est une référence telle que les Américains ont fait le lien direct. Donc, effectivement, ce que je vous ai évoqué n'est pas trop du domaine de la science-fiction. C'est du domaine de la fiction et du domaine de la science, mais pas de ce qu'on appelle la science-fiction. Je vois, on a sous les yeux les très belles images de Vincent Calbeau, avec qui on a débattu l'autre jour. C'est aussi un enfant de Jules Verne, d'une certaine façon. Mais en même temps, il a son œuvre propre et son travail propre. Jacques Rougerie, qui aussi, dans le domaine maritime, fait des réalisations architecturales aussi originales et qui sont un peu inspirées de Jules Verne, a aussi écrit un livre qui s'appelle, et en pensant un peu à lui, Les enfants du capitaine Nemo. Donc il y a cette filiation et en même temps, il y a de la création. Donc c'est tout cela à la fois.
En fait, est-ce que vous avez des auteurs de littérature, qui ne soient pas forcément de science-fiction d'ailleurs, qui se réfèrent à Jules Verne ?
Oui, bien sûr, il y en a. Jean-François Hott vient d'écrire un livre qu'il appelle Strogoff, et en disant Strogoff, c'est un peu moi. Dans le même ordre d'idée par rapport à la Russie, on a fait refaire à une dizaine d'auteurs le voyage sur le train à l'Orient Express en disant racontez-nous le voyage en Russie sur les pas de Strogoff. Donc, c'est aussi effectivement des inspirateurs de gens qui voyagent ou que l'on fait voyager, qui voyagent d'eux-mêmes et qui disent je vais sur les pas de, non pas de Jules Verne, mais des héros de Jules Verne. Ça existe encore et puis sans doute dans l'écriture il y en a également, puisque à l'Académie de Bretagne dont je m'occupe, nous avons un grand prix Jules Verne depuis une quarantaine d'années qui chaque année trouve des œuvres qui sont inspirées de Jules Verne. Et donc chaque année il y a un lauréat, mais il y a une dizaine d'œuvres au moins que l'on prend en considération, qui sont d'inspiration vernienne.
Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, peut-être sur la notion des enfants de Jules Verne. Je me posais la question, et les spécialistes vont pouvoir répondre, des gens qui sont beaucoup plus pointus que moi. Je me demande si, au travers de récits fantastiques précédents, comme ont pu l'être des Frankenstein, des Dracula, des récits comme ça, finalement, au-delà de Verne, ou à partir de Verne, il y a eu un véritable développement d'une littérature de genre, c'est-à-dire plus un texte que l'on pouvait assimiler à quelque chose d'atypique et d'étrange qui pouvait être lu par certaines personnes, mais qui pouvait être lu comme du Nerval, comme de la poésie, comme d'autres choses. Là où, à partir de Verne, en fait, on commence à avoir une véritable histoire structurée, finalement, d'un lectorat. C'est la construction d'un lectorat. Alors, est-ce que ça n'est pas un axe aussi qui finit par définir l'idée de enfant de Verne? C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément s'attacher à Verne en disant ben, « je mets des boulons partout, je suis un enfant de Verne ». Non, c'est que aussi à partir de ce type de récit qu'on a finalement tous lu, qu'on a quand même tous lu, avec lesquels on n'a pas forcément une empathie totale, mais on a malgré tout un lien affectif parce qu'on sent bien que c'est à partir de ça que s'est installée une forme d'édition. Et ça, c'est une véritable, il y a une véritable mutation. Alors, c'est peut-être même pas forcément que Verne, j'en sais rien, hein, mais c'est cette époque-là qui amène ça. Et c'est ce qui va amener aussi tout le monde de l'édition du grand livre au livre poche, ce qui va amener à une consommation du livre au sens multiplication de l'impression de façon à toucher un plus grand nombre de lecteurs, le démarrage de la lecture de gare à la fin du 19e siècle, c'est tout ça aussi, je pense.
Monsieur Pommier.
Oui, je crois que c'est vrai, il y a une évolution permanente. Jules Verne, quand il écrivait, était dans un genre tout à fait nouveau et très différent de ce qu'il a précédé. Il a d'ailleurs lui-même dit « En littérature, je n'existe pas, on ne m'a pas reconnu parce que ça n'était pas considéré comme de la littérature, ce qu'il écrivait. Donc à chaque époque, les choses évoluent. Lui-même s'était inspiré d'Edgar Poe, de quelques auteurs connus, Walter Scott, Dickens, un peu. Mais il a créé un genre nouveau par son style, par le sujet, y compris par le mixage intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, illustration-livre, car les livres de Jules Verne comptent aussi par les illustrations qui renforcent le texte et qui se croisent, qui se répondent l'un l'autre. Bien sûr qu'après lui, on ne recommence pas à faire la même chose. Donc il nourrit d'autres genres d'inspiration, la science-fiction, des bandes dessinées, des différentes formes d'expression, à la fois en genre littéraire et en mode de fiction totalement différente, mais qui se nourrissent pour partie seulement de Jules Verne.
Simon, là-dessus.
Sur quel aspect?
sur Jules Verne en tant que grand inspirateur et oui, démarrage alors, de genre.
C'est-à-dire qu'il y a une, je dirais pas une dette, mais disons il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre au crédit de Jules Verne en termes de figure qui a accompagné un certain nombre de choses, mais la vogue des voyages, la vogue du récit d'aventure n'est pas intégralement, ne peut pas être rabattue sur Jules Verne en tant que tel. Et elle s'est développée indépendamment de lui. Après, je ne suis pas spécialiste de ces questions du 19e siècle, donc je ne vais pas détailler.
Une petite question sur l'Allemagne. La place de Jules Verne en tant que grand inspirateur, qu'est-ce qui compte le plus? On parlait de Perry Rodin, par exemple. Est-ce que Perry Rodin n'a pas une place plus importante que Jules Verne pour les auteurs allemands?
Oui, probablement. Je ne peux pas parler pour tous les auteurs allemands. Je peux parler pour moi. Quand j'ai reçu l'invitation pour ce débat, je me demandais, est-ce que je suis un enfant de Jules Verne? Et oui, parce que c'était à l'âge de 15 ans, comme je rappelle, c'était un livre de Jules Verne qui m'a donné envie d'écrire mon premier vrai roman. Alors, c'était deux années de vacances qui m'a influencé ou inspiré d'écrire un vrai roman épais pour l'âge. Je suis arrivé vers 85 pages, mais quand même, c'était le début. Et pour ça, je dis oui. Perry Rodin et Jules Verne sont mes pères. Et j'étais très fasciné par beaucoup de livres, aussi parce que, il faut souligner ça, Jules Verne est toujours très lisible et très passionnante. Cette structure de ces sont des aventures qui sont pratiquement immortelles. Il n'est pas seulement important, il est aussi toujours lisible.
En quoi, dans ce que vous écrivez, vous retrouvez du Jules Verne aujourd'hui?
Oh, je ne sais pas. Je suis trop proche à moi.
Une petite question. Alors, Nicolas, parlons un peu d'illustration et de la place de Jules Verne chez les illustrateurs aujourd'hui, et peut-être chez toi. Est-ce que c'est un auteur qui a compté? Et sur l'imaginaire visuel, est-ce que c'est un auteur qui a compté également?
Oui, fatalement, Jules Verne compte pour beaucoup de monde. Déjà, alors, il a été cité, c'est Simon qui en a parlé, Robida était aussi un gros moteur d'influence parce qu'il a appliqué quelque part en illustration, sans faire citation directe à Jules Verne, hein, mais en développant lui-même ses propres projets, a développé aussi de l'illustration qui... aujourd'hui sont aussi pour beaucoup les bases du steampunk. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le débat non plus du steampunk et de tout ça, et d'une parce que je ne suis pas spécialiste et puis que je ne sais pas forcément ce que j'affectionne, Notamment pour une simple raison, c'est que je pense que la, si pensée verdunienne il y a, et si ça se redistille dans les images, c'est que ça n'est pas forcément parce que l'on attend avec des structures métal, des ballons volants et des choses comme ça. Il y a effectivement tout ça, mais il y a aussi le, cette volonté, la dimension d'anticipation chez Jules Verne, qui est de prendre un élément qu'il va extraire du monde dans lequel il est, pour l'augmenter et le mettre en scène. Et c'est au travers de cette mise en scène-là, c'est un peu ce qu'on retrouvera 80 ans plus tard avec des Philippe K. Dick sur cette notion d'anticipation et de décalage, et à partir de là, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Ou d'un Greg Egan aujourd'hui. Quelque part, d'ailleurs, je trouve qu'il peut y avoir une affiliation d'un Greg Egan avec tout ça aussi. Et donc, en dessin... Je digresse, je suis désolé, mais en dessin, on va retrouver ça à la fois sur un terrain très frontal, mais c'est par rapport à ce qui a pu être fait avec Robida, mais aussi avec toutes les structures Eiffel, avec tout le 19e siècle français, ou le 19e siècle anglais aussi, qui a été profondément inspirant, avec toutes les structures de Palais des Glaces, d'exposition universelle, de... toutes ces choses-là qui ont amené, qui ont presque rendu crédibles d'ailleurs des visions verniennes. C'est-à-dire, ce sont quand même des visions verniennes qui ont été construites en vrai, hein. Pour ne citer que la Tour Eiffel, ou le Palais des Glaces à Londres en 1850 ou 65, je ne sais plus. Je ne sais plus pour quelle exposition universelle. Voilà, donc tout ça sont nos modèles d'inspiration. Je pense à énormément inspirer des gens comme Skuyten. Ce sont d'énormes bases aussi sur les rapports entre le gigantisme, les rapports entre le gigantisme et comment vivre dedans, à tous les questionnements de, à la fois aussi de rapport à la vie à l'intérieur de ces structures.
Simon, tu voulais intervenir ?
Oui, alors je voulais juste réagir sur la question de l'anticipation. Et alors, le rapport qu'il y aurait entre Greg Egan et Jules Verne, je vois ce que ça peut signifier. Je suis assez d'accord avec l'idée de, justement, cette idée pour Greg Egan d'une, finalement, de suivre un fil de façon extrêmement précise, extrêmement rigoureuse, avec finalement cette tournure d'esprit scientifique qui est qu'il fait finalement une expérience en évacuant beaucoup de choses autour. Enfin, pas seulement, mais disons que c'est une des caractéristiques de certains de ses récits. Et finalement, ça me rappelle cette distinction très importante qui est justement, disons, la manière dont clairement la science fiction américaine s'est complètement détachée de l'imagination scientifique à la Jules Verne qui l'a précédée, même si ils ont puisé une partie de leur inspiration là. C'est justement le rapport à la merveille scientifique, c'est-à-dire l'objet anticipé. Chez Jules Verne, alors ça a été repéré et dit maintenant plusieurs fois, après Gérard Klein enfin, notamment, mais que l'objet de Jules Verne est voué à disparaître, en quelque sorte. Il anime un récit et il disparaît. On n'y reste pas, on ne construit pas à partir des choses qui sont exposées. Alors que justement... Et ça, c'est quelque chose qui se poursuit dans l'anticipation française, tranquillement, alors avec des choses extrêmement différentes qui commencent à se mettre en place à la fin des années 30, pendant les années 40, et malheureusement, en quelque sorte, la pénurie de la guerre aidant, de toute façon, il n'y a plus d'auteurs vraiment pour continuer sur cette tradition-là, à part Barjavel qui est quand même assez silencieux à ce moment, quand arrive la science fiction américaine avec un nouveau modèle. Enfin, je n'ai pas forcément été très clair, mais pour redire justement l'opposition, c'est que justement, lorsque les auteurs américains commencent à s'emparer de cette idée, ils sont dans une logique qui est une logique de la standardisation, une logique du brevet, la logique de la production en série. C'est l'époque où on s'industrialise, enfin où on passe à un niveau supérieur de l'industrialisation qui est celui de la société de consommation. Et leur conception des objets scientifiques, des objets techniques, c'est que finalement, si un objet technique peut être produit une fois, il peut être produit 1000 fois, 1 million de fois, et il peut se répandre dans tous les foyers, et il transforme l'existence. Et à partir de cette observation et cette idée relativement simple, eh bien, on a le point de départ, le point de départ au sens propre, entre la science-fiction à la Jules Verne et la nouvelle science-fiction, enfin la science-fiction qui se fait aux États-Unis. C'est-à-dire cette conception d'une anticipation, d'un objet anticipé qui n'est plus simplement une merveille, mais qui finalement fait partie des objets de consommation courante.
Je reviens sur la partie illustration. Sur Un an dans les airs, comment est-ce que tu as travaillé justement, et est-ce que tu as replongé dans des livres de Jules Verne pour faire tes illustrations?
Oui, fatalement. Et puis, de toute façon, il y avait suffisamment de textes aussi, puisque il y a une quadruple écriture aussi de l'ouvrage. Donc fatalement, eux-mêmes sont repartis de certains livres. Bien sûr, on a recroisé tout ça. Moi, je me suis fait fort de faire aussi, de relancer des recherches justement sur l'architecture à partir de 1850, parce que le récit se passe en 1870. Et je voulais voir un peu tout ce qui avait été véritablement entamé, sur tout ce qui était structure métal, le rapport du verre, du métal, qui existait déjà à l'époque physiquement, puisque un an dans les airs est une réalité plausible. Donc, devait avoir des logiques de construction qui étaient bien réelles. Donc voilà, en fait, oui, il y a eu un retravail sur les... Il y a eu beaucoup de descriptions, de toute façon, qui ont été faites par les auteurs. On en a aussi beaucoup rediscuté pour savoir quels étaient les éléments que l'on pouvait replacer, jusqu'à de véritables aberrations, comme l'orgue en plein milieu. Voilà.
Est-ce que, quand tu dessines, tu as cherché à retrouver l'esprit ? Et comment tu as fait pour retrouver l'esprit ? Parce que là, on parle de documentation... Alors, mais dans le style même.
Oui, mais alors je vais quand même continuer en documentation parce que je trouve que justement c'est l'axe intéressant chez Jules Verne. Quand on regarde tout ce qui avait pu être inventé à l'époque, on se retrouve souvent face à des objets qui sont tellement étranges que l'on ne les décrit plus, que l'on ne les voit plus. C'est-à-dire que si j'avais repris invention par invention les éléments qui auraient pu être mis en scène, le livre aurait été carrément abstrait. Les inventions étaient déjà décalées et il y avait déjà énormément de choses. Donc il fallait presque revenir à des choses plus simples. Moi, naturellement, ça fait pas mal de temps, je collectionne aussi des plaques photographiques du 19e siècle. J'ai un fonds documentaire personnel donc, qui est aussi orienté vers les ambiances, la vie sociale au 19e siècle. Puisque c'est pour beaucoup des fonds de photographies de famille, donc c'est sur la vie quotidienne. Je trouve qu'il y a à la fois, effectivement, il faut aller chercher dans les livres, mais il fallait chercher aussi dans la façon dont on vivait à l'époque de Jules Verne, qui me paraît tout aussi important, finalement, dans une mise en abîme. Puisque l'idée n'était pas de faire une sorte de pastiche en faisant une continuation 130 ans après de l'œuvre de Jules Verne. Non, c'était d'être... à l'époque de Jules Verne, et d'essayer de voir comment on pouvait avancer vraiment dans cette idée-là de Jules Verne. Pour ne citer qu'un exemple, par exemple, ne serait-ce que sur les progrès de la photographie, il y a Nadar qui fait partie de l'histoire, donc il y a évidemment toutes les références à Nadar qui sont justes historiquement, mais à l'intérieur de cette cité volante, il y a un photographe qui, lui, fait des expériences à plein de machines, et ça correspond aussi à des réalités de l'époque, il y a des choses qui ont été tentées, en photographie relief qui existait déjà, enfin sur plein de choses comme ça, oui.
Une petite question, Simon, parce que dans l'intitulé de la conférence, il y a l'engouement pour l'objet technique est-il toujours vivace ?
Alors, l'engouement pour l'objet technique, justement, on en parlait dans la question de l'anticipation, finalement. Je dirais que on touche une question qui est un peu distincte entre ce que Jules Verne faisait des objets techniques de son époque. Qui finalement il a contribué en partie à vulgariser un certain nombre d'images de la science, et ce qui peut se produire actuellement et qui, à mon sens, pose un problème fondamental aux auteurs de science-fiction actuelle, qui est qu'il y a une récupération de plus en plus massive depuis quelques années, justement d'une imagerie, d'une logique de mise en valeur de l'objet technique. Je pense ici à tous les gadgets qu'on peut avoir les uns ou les autres en termes de smartphones ou autres, qui sont de plus en plus valorisés comme justement l'objet, le nec plus ultra, mais comme quelque chose qui fait accéder à un nouvel univers, en quelque sorte. C'est-à-dire que le réflexe de présentation de l'anticipation, il est présent de plus en plus dans la publicité, dans la mise en valeur de certains produits. Et en ce sens, je ne veux pas dire que les auteurs de science-fiction aient du mal à suivre le progrès technique, mais que d'une certaine façon, la manière dont ils peuvent valoriser un certain nombre d'objets et justement jouer sur cet intérêt pour la technique est en quelque sorte un peu dilué dans un état d'esprit, un zeitgeist contemporain. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'on pourrait peut-être poser la question à notre auteur, justement, en rapport à l'objet technique.
On parlait de nanotechnologie, hein, dans le maître de la matière notamment ce matin.
Oui, à mon avis, l'attitude de la science-fiction ou des auteurs de science-fiction vers le progrès scientifique a changé pendant les derniers 100 ans. Et même même si on, si on lit les livres de Jules Verne, dans l'ordre où il les a écrits, on observe le même changement. Au début, un enthousiasme sur les possibilités, et ça change peu à peu à une sorte de scepticisme, une sorte de... il faut être prudent avec... on ne doit pas faire tout ce qu'on peut. Et ça, je pense, c'est le rôle d'auteur aujourd'hui, de réfléchir sur, sur les conséquences de certains développements, de dessiner un scénario complet qui donne une idée comment ça peut être ou comme ça. Ouais.
Il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que quelqu'un a une question pour nos intervenants? Est-ce que vous vous sentez vous aussi les enfants de Jules Verne? Dites-nous.
Effectivement, on peut interroger le public à ce moment-là. Ouais. En quête de témoignage. Y a-t-il des héritiers de Jules Verne dans la salle?
On va faire un vote. Qui se sent l'enfant de Jules Verne ici? Il y a débat quand même. Hein. Ça fait une petite minorité. Est-ce que quelqu'un a une question pour nos intervenants? Oui, monsieur.
Alors, on parlait tout à l'heure de l'héritage littéraire de Jules Verne, dont on a assez peu parlé finalement, parce qu'il semblerait qu'il n'y en ait pas, en tout cas dans son projet d'écriture, qui était de décrire le monde... de son époque, parce que Jules Verne, c'est pas tant de la science-fiction que du roman réaliste mettant en scène la science de son époque. Effectivement, aujourd'hui, dans la littérature, on trouve plus trop ça, ou alors chez qui on pourrait le trouver, ça c'est une première question. Et dans un monde globalisé comme aujourd'hui, où on peut savoir tout à tout instant, juste en se connectant à Internet sur tel ou tel sujet, est-ce qu'un tel projet pourrait encore voir le jour aujourd'hui, même pour des jeunes dans la littérature?
Simon.
Pour répondre de manière un peu générale, j'ai pas d'exemple qui me vienne pour la première question, mais la question de la didactique, de la pédagogie de Jules Verne se pose évidemment dans des termes très très différents à notre époque, mais pas seulement du fait des nouveaux moyens d'information, même si ça en fait partie. Mais ça tient aussi à une certaine conception de la chose littéraire. C'est-à-dire que finalement, il y avait cette idée au départ dans le projet vernien, me semble-t-il, mais ça, Monsieur Pommier me corrigera si je dérive. Il y a quand même une volonté de rentabiliser l'objet. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on ne fournit pas seulement un récit d'aventure, on fournit en même temps un manuel d'éducation des enfants. Enfin, ça fait partie, disons, du paquet Jules Verne. Et cette volonté d'éduquer de façon assez évidente me semble-t-il n'a plus la même place dans nos projets littéraires actuels, tout simplement. Un écrivain qui fait ça, et c'est trop évident et on a d'autres manières de mettre en scène ces objets-là. Donc, et c'est pas seulement une question d'information, parce qu'on n'a pas attendu Internet pour que ce type de texte cesse d'être vraiment très mise en avant.
Monsieur Pommier.
Oui, effectivement, c'est l'œuvre de Jules Verne est datée, comme on vient de le rappeler à l'instant. L'aventure, la science, je dirais que peut-être encore avant ces deux termes, il y a l'espace, la géographie, parce que le projet de Jules Verne et de son éditeur Hetzel, c'était de décrire le monde et la Terre par le biais du roman. Il y avait encore des zones d'ombre sur la Terre à l'époque, même si les découvertes avaient permis d'être présent dans pas mal d'endroits. Quand Jules Verne écrit par ailleurs un autre livre pour Hetzel, Découverte de la Terre, où il fait l'état des connaissances au fil des siècles, il donne à la fin de chaque volume l'état de connaissances du monde, fin du 17e, fin 18e et presque fin du 19e. Et on voit les zones de terre inconnues petit à petit évoluer. Mais rester encore à son temps, les pôles, le cœur de l'Australie, le cœur de l'Afrique, le cœur de l'Amérique du Sud, il y avait encore des zones inconnues. Et donc, c'était à partir de cette thématique-là que Jules Verne écrit et qu'il invente des aventures et qu'il met des notions scientifiques par le biais de moyens de transport, de machines extraordinaires. Et donc c'est cette construction-là qui était une construction littéraire possible à l'époque et qui aujourd'hui ne serait plus sous cette forme. Donc à chaque époque, son genre, il était déjà à peine reconnu dans la littérature. Aujourd'hui, on peut dire que c'est dépassé, qu'on est passé à autre chose.
effectivement.
En ce sens, et pour revenir au titre, enfin au point de départ de la table ronde, je me dis qu'on pourrait examiner la question de savoir si le prolongement de cette exploration des différentes terra incognitae qui restaient sur la carte et qui ont disparu peu à peu, si ce prolongement n'est pas tout simplement à trouver dans la pratique du space opéra au sens large, parce que ça a de très nombreuses manifestations bien sûr, la revendication qui était celle de Serge Lehmann en 1998 ne se justifie pas d'autant plus dans la mesure où les années 90 pour la science-fiction française et en général d'ailleurs, hein, c'est un moment de grand renouveau du space opéra et un moment d'écriture. Donc, d'ailleurs, à la même époque, Serge Lehmann écrivait ou avait écrit un de ses grands space opéras, Aucune étoile aussi lointaine, c'est-à-dire avec cette idée justement de poursuivre, prolonger l'exploration des terres inconnues en se projetant dans l'espace. Je ne suis pas certain, de ce point de vue-là, que Jules Verne reconnaîtrait ses enfants aux deux sens du terme.
Nicolas Fructus.
Oui, pour répondre à la question, il y a... Ça, c'est un avis personnel. Je trouve que Jules Verne est aussi un grand utopiste. Enfin, il y a en sous-jacent, toujours dans ses récits, il y a une vraie volonté d'utopie. Ça, c'est plutôt atemporel. Donc, je trouve qu'on retrouvera toujours, malgré tout, ce genre de choses. Autrement, historiquement, le rapport que vous faites aux nouvelles technologies, je ne peux pas être d'accord. Au 19e siècle, il y avait une revue... Enfin, du 19e, c'est de 1850 aux années 20, il y a eu une revue qui s'appelait Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, technologiquement, cette revue a fonctionné comme ça. C'était des reportages partout sur la planète. Donc des voyageurs étaient soit de leur plein gré, soit envoyés par la revue, allaient faire des états des lieux de différents pays. Donc ils allaient en Australie, ils allaient, voilà, ça fait partie des explorations. Quand ils revenaient, ils faisaient dessiner ça à des dessinateurs graveurs. Gustave Doré a travaillé dedans d'ailleurs, il a fait ses armes là-dedans. Et les voyageurs explorateurs faisaient dessiner par le dessinateur ce qu'ils avaient vu. La deuxième phase, c'est que ces explorateurs ont commencé à ramener des photos. Sauf qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas encore reproduire la photographie. Donc, il y avait des dessinateurs qui faisaient du dessin photo qui était reproduit en gravure. Puis, il y a eu la photographie. Et donc, avec toutes ces évolutions-là, on est arrivé après sur du livre entièrement photographique qui raconte les voyages, au-delà de la revue Le Tour du Monde. Il y a eu progrès technologique. Or, si vous regardez comparativement en édition, il n'y a jamais eu autant d'éditions de carnets de voyage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est revenu 150 ans après sur le principe sans doute une surabondance de l'image ou de l'image immédiate qui fait que tout le monde a vu ces photos, tout le monde connaît ces choses-là. Il y a toujours un moment où il y a besoin de vivre avec le rapport d'une image de quelqu'un qui a été vraiment au cœur de quelque chose et qui l'a vécu personnellement. Je prends pour exemple des carnets de croquis de François Bouc qu'il a pu faire au Mexique, par exemple, où il s'est installé sur des marchés, il a dessiné en direct les gens sur les marchés. Bon, ça, n'importe qui peut le photographier, un marché au Mexique. Mais le Mexique par François Bouc en 1998, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc je pense qu'il y a toujours un espoir là-dessus.
Une dernière question avant de boucler ce débat. Personne ? Ah, mademoiselle ? À côté des oreilles de chat.
Tout le monde à table ronde, vous avez beaucoup parlé de la littérature et un peu l'illustration, mais qu'est-ce qu'il en est du cinéma, par exemple ? Est-ce qu'on retrouve aussi des influences dans d'autres arts ou dans d'autres médias de la culture ?
Ça, c'est une question pour Jean-Yves Pommier.
Je ne suis pas un spécialiste du cinéma. Je sais qu'il y a, eu beaucoup d'adaptations directes de l'œuvre de Jules Verne, enfin directes et indirectes, parce que dans certains cas, ça a été peut-être moins bien traité, mais bon, aux créateurs de cinéma libres de choisir un petit peu leur approche. Sauf quand ils reprennent le nom exact du livre de Jules Verne, il y a quand même un minimum à respecter. Mais il y a eu beaucoup, et il y a toujours des adaptations de 20 milieux sous les mers, du Tour du Monde en 80 jours, de Michel Strogoff, parmi les plus adaptés. Ça a commencé par le théâtre du temps de Jules Verne, c'est passé au cinéma, notamment, y compris avec son fils Michel, qui a adapté au début du XXe siècle les œuvres de Jules Verne et ça continue. Il y a encore un grand projet les studios Disney de faire une nouvelle adaptation d'Un milieu sous les mers, encore plus grandiose, en Australie. Le budget n'est pas encore réuni, mais c'est dans le circuit.
Simon Bréan.
J'en profite parce que j'ai rien de plus à ajouter sur la question du cinéma, même si il y aurait certainement à réfléchir aux dettes que peuvent avoir des cinéastes par rapport à des adaptations de Jules Verne qui ont éventuellement impressionné. Mais c'est l'occasion de rappeler finalement ce que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment dit, mais c'est peut-être tellement connu, que finalement Jules Verne, qui n'était pas légitime tellement quand il le publiait au départ, fait réellement partie de la culture générale. C'est-à-dire que c'est aussi la raison pour laquelle on peut avoir envie de revendiquer son héritage, c'est que c'est effectivement une figure et un imaginaire qui fait partie de la culture commune et qui a traversé à peu près tous les médias. Je crois qu'on peut dire qu'effectivement, c'est un auteur multimédiatique actuellement. Je ne sais pas trop pour la chanson, mais il faudrait chercher.
Juste un petit mot pour compléter ce propos, pour dire que Jules Verne est encore aujourd'hui, début du XXIe siècle, l'auteur français le plus traduit dans le monde. C'est quand même un signe. C'est l'UNESCO qui le dit par ses statistiques de traduction dans des langues différentes. C'est pas le hasard, et au-delà de tous les grands auteurs français connus, c'est toujours lui qui tient le haut du pavé. Et c'est un peu ce qu'on veut montrer dans Planète Jules Verne d'ailleurs, c'est qu'il est encore actuel aujourd'hui, non seulement dans l'interprétation directe de son œuvre qui va bien au-delà des récits d'aventure et de voyage, et quand on a le dernier numéro là, qu'on a traité, qu'on présente ici aux Utopiales, c'est l'homme et son environnement. Jules Verne, en matière écologique, a aussi dit des choses tout à fait intéressantes. Donc, on peut relire aujourd'hui, non pas comme un enfant des aventures extraordinaires, mais comme un homme qui a étudié la société et parfois eu des anticipations ou des analyses qui sont tout à fait pertinentes encore aujourd'hui.
Voilà, on va s'arrêter là. Il y a encore une conférence qui s'appelle le Visual Novel tout de suite. Vous allez pouvoir retrouver les auteurs en dédicace. Merci à tous et merci à vous.